Expo,
cinéma,
littérature,
peinture,
expo,
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Transversar, l'émission culturelle de Transistor. Il est une institution lyonnaise dont nous n'avons pas encore parlé dans cette émission. Le Musée d'art contemporain de Lyon, autrement appelé le MAC. Il était grand temps donc de mettre un terme à la situation et nous avons décidé de placer toute notre émission sous le signe de la programmation du Musée d'art contemporain de Lyon. Une programmation double, puisque le musée accueille en ce moment deux expositions. La première est consacrée à l'artiste Pascal Martine Taillou, et nous avons rencontré Thierry Raspail, qui dirige le MAC de Lyon depuis sa création, afin d'évoquer cette étrange et belle proposition. La seconde exposition est Indian Highway, opus 4, qui présente un panorama de l'art contemporain en Inde. Opus 4, car cette exposition est itinérante. Elle fut réalisée à l'origine pour la Serpentine Gallery de Londres, et depuis elle voyage. À chaque escale, un commissaire réinterprète Indian Highway, l'étaye, la transforme. Après Lyon, Indian Highway poursuivra sa route et c'est en Inde qu'elle se conclura en janvier 2011. La version lyonnaise, quant à elle, bat des records de surface avec plus de 2000 mètres carrés et 31 artistes. 31 artistes, quelle erreur! Beaucoup d'installations monumentales, beaucoup d'œuvres multimédia pour une exposition dont l'un des propos est d'éviter les exotismes auxquels est souvent réduit cet immense territoire.
Comme vient de vous l'annoncer Nina, Thierry Raspail vous parlera de la première exposition, celle de Pascal Martine Taillou. Nous ne vous proposerons pas de portrait d'Indian Highway, mais nous nous saisirons de l'occasion pour discuter de la culture indienne en interrogeant l'image qu'elle renvoie à l'Occident, entre tradition et modernité, rêve bollywoodien et réalité. Pour ce faire, nous recevrons, et c'est une autre grande première de Transversar, une danseuse dans notre petit salon. Élève en lettres à l'école, Fanny Viard perçoit la culture indienne à travers sa danse, qu'elle pratique depuis de nombreuses années. Avec elle, nous prolongerons la discussion sur l'Inde et sur la fascination que le pays exerce sur l'Occident.
Ah, je vous devine très impatient, chers auditeurs, mais d'abord, rendez-vous est pris au Musée d'art contemporain pour rencontrer Thierry Raspail et évoquer avec lui le travail d'un artiste qui, de biennale en exposition monographique, est devenu incontournable sur la scène de l'art contemporain, Pascal Martine Taillou.
Thierry Raspail, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez donc le Musée d'art contemporain de Lyon, musée qui propose en ce moment et jusqu'au 15 mai une exposition consacrée à l'artiste Pascal Martine Taillou. Et ce qui est assez frappant pour cette exposition, c'est quand on tente de la décrire ou quand on en lit les descriptions, on s'aperçoit que le vocabulaire qui arrive immédiatement est celui de l'énumération. Tout d'abord, sans doute en raison de la profusion des œuvres, mais aussi de la profusion des médiums. Puis il y a du dessin, de la photographie, du son, même de la lumière avec l'installation Neon Open. Mais est-ce que derrière cette logique de l'énumération, le fond de l'exposition ne serait pas celui d'une profonde unité, Pascal Martine Taillou ne proposant pas tant une succession d'œuvres qui sera appréhendée une à une, mais proposant plutôt aux visiteurs de plonger dans un univers, dans une atmosphère spécifique?
Pascal Martine Taillou est un artiste qui crée un certain nombre d'objets, de formes. Pascal travaille avec un certain nombre d'éléments qu'il mixte. L'exposition de Taillou est d'autant plus apparemment dans l'ordre de l'énumération, mais il faudra revenir là-dessus, qu'il y a simultanément à l'expo de Taillou une exposition qui s'appelle Indian Highway, qui, elle, fonctionne de manière plus conventionnelle. La question d'Indian Highway consistait à dire comment parler comme ça de façon très très globale, c'est-à-dire de façon très synthétique, donc de façon très fausse, d'une situation éloignée pour laquelle on a des archétypes, des idées toutes faites, et comment ne pas friser l'exotisme. Bien, cette question est intéressante puisqu'elle se pose à l'égard d'Indian Highway, donc artiste d'Inde, et elle se pose aussi globalement de la part de Pascal Martine Taillou. Pascal Martine Taillou est un artiste belge, puisqu'il réside et qu'il a la nationalité, il réside à Gand, mais qui est d'origine camerounaise. Et Pascal, comme énormément d'artistes aujourd'hui et depuis de nombreuses années est indifféremment dans des projets, des produits, des peintures, des dessins, des choses qui s'incarnent, qui sont matérielles, et puis d'autres qui le sont moins, des musiques, des actions, etc., etc. Le parti pris était assez simple. Il consistait à se dire que si l'on considère qu'une œuvre est polysémique, si l'on considère que par conséquent elle s'installe toujours dans un contexte un tout petit peu différent, il y a un phénomène de contexte et que cette œuvre, par définition, n'a pas de bord. Daniel Buren disait à une autre époque que ce qui importait, c'était l'espace entre deux tableaux, par exemple. Le projet de Pascal n'est pas in situ, il est tout simplement d'utiliser les matériaux disponibles. Non, les matériaux disponibles, vous en avez un parmi d'autres qui s'appelle l'espace, le présent, là où je suis. Et donc, ce qui a compté, c'était le lien entre des œuvres disponibles qui ont fait l'objet d'une sélection commune entre le Musée d'art contemporain de Lyon et le Musée de Malmö, puisque c'est une coprode avec eux. Donc, ces œuvres disponibles, je dirais le vrac, le fonds de commerce, et puis la présentation de l'ensemble de ces œuvres dans un contexte qui est celui de l'espace dont on dispose. Et là, le parti pris a été très simple, c'était que c'est la présence d'une œuvre au centre, qui est une œuvre qui se présente, pardon pour la répétition, comme une espèce de vague échafaudage sur lequel le public est invité à se mouvoir et qui lui permet de voir l'intérieur de quelque chose qu'il discerne par ailleurs à l'extérieur. Donc ça composait un espace central, chose extrêmement connue en architecture, quand vous avez un espace central, comment vous gérez les collatéraux, tout simplement. Donc à partir de là, l'idée était assez simple, c'est évidemment une idée de Pascal, c'était de dire progressons peu à peu dans cet univers, sachant que l'exposition commence symboliquement dès qu'on a franchi la porte du musée. Donc on va rencontrer comme ça dans un parcours, car il s'agit de parcours et pas d'énumération, on va rencontrer de façon un peu étrange des black diamonds, des choses qui pendouillent comme ça, qui sont un petit peu invisibles. On va croiser une œuvre qui appartient à la collection, qui est une œuvre plus ancienne, qui est une œuvre de 2000, à laquelle Pascal a associé des œuvres récentes, précisément pour montrer et ne pas démontrer qu'il est toujours possible de revenir sur l'ouvrage. Et puis ensuite, on entre au troisième étage. Et là, Épée de Damoclès, c'est le titre de l'œuvre, on entre dans quelque chose qui pourrait, mais on s'en rend compte éventuellement après, relever de la forêt, de l'encombrement. C'est un espace sombre, à l'intérieur duquel des pieux comme ça, qui semblent être de gigantesques crayons de papier taillés.
Et
c'est selon, éventuellement menaçant.
Ce qui rend l'effet presque de choc, c'est qu'on sort de l'ascenseur, pour restituer cette idée de parcours, on sort et immédiatement on est plongé dans un espace complètement autre qui exige qu'on modifie son parcours habituel, la démarche qu'on avait avant dans le reste du musée. Par exemple, si on avait fait le parcours Indian Highway avant, soudainement on arrive dans une logique spatiale qui est autre et qui oblige presque de se soumettre à l'œuvre.
Oui, c'est pourquoi je parlais d'Indian Highway, mais il se trouve que la pièce était une merveilleuse introduction à un passage précisément sans transition, d'un ascenseur à un espace étrange. D'habitude, on entre, il y a toujours une espèce de narthex, on va dire, où on voit le titre de l'expo, etc. Là, c'est vrai, on entre dans une pénombre. Il y a donc quelque chose qui cache ce qui va se produire. On passe de la forêt sombre, mais probablement menaçante, à une espèce de fouillis qui est entre le vide-grenier. Voilà. Mais ça, c'est évidemment particulièrement articulé. Ce qui fait effet, c'est l'accumulation, la disparité des éléments entre eux. Mais si on se laisse aller à la déambulation, puisque la démarche est de dire que face à une œuvre d'art, un ensemble d'œuvres d'art, tous les parcours sont possibles, tous les imaginaires sont les bienvenus, tout ça construit des superpositions étranges, on vit une espèce de pluralisme et de pluralité. Et ça, le fait de jouer comme ça sur des rituels, sur des rapports d'échelle, sur la décision de monter et de descendre, sur des matériaux très différents, tout ça entre en jeu, évidemment, dans son œuvre. Et tout ça, pardon d'être extrêmement bavard, tout ça est dit de façon légère. Il n'y a pas plus de discours pro-moderne qu'anti-moderne. Il y a juste cette volonté d'échapper aux limites matérielles qui sont incarnées par des œuvres isolées dans leur cadre.
Alors, justement, vous avez parlé de collage et aussi de cette notion de vide-grenier. Et précisément, c'est vrai que ce qui est frappant dans cette diversité de matériaux, c'est la présence de beaucoup de matériaux quotidiens. Et il y avait cette expression de Prévert au sujet du collage, et quand même je trouve que l'œuvre de Pascal Martine Taillou a vraiment quelque chose, même si elle est entièrement différente, en effet entièrement spécifique, il a quand même quelque chose de cette pratique du collage. Et Prévert parlait du collagiste comme d'un chiffonnier fastueux. Et il me semble qu'on a cette dimension précisément puisque si on voit l'œuvre de loin, souvent, on voit des couleurs, des matériaux. Et puis quand on s'approche, on s'aperçoit que ce ne sont, entre guillemets, que des stylos, que des couverts. Et il y a toute cette relation à l'objet quotidien qu'on pourrait sans doute développer et qui est quand même liée à une des spécificités de cette exposition, qui est qu'elle se continue dans la ville et notamment dans des lieux aussi quotidiens que l'épicerie Bahadourian ou une boucherie de la rue de l'Épée à Guillotière.
Le référent au collage, puis l'appropriation qui devient démocratique et qui devient, je dirais, une espèce de standard un peu facile à partir des années 60, Pascal joue avec ça. Il s'agit plus d'associer que de coller. Lui, son intrigue ne consiste pas à glisser, elle consiste à associer. C'est-à-dire que cette exposition-là, elle est unique dans la mesure où on ne la retrouvera jamais. Elle est plus unique que n'importe quelle autre exposition parce que ces mêmes éléments, on les retrouvera ailleurs. Mais c'est la conjoncture qui a donné cela. Mais la notion de mêmes œuvres est quelque chose de évidemment qui existe à 70%. Le choix des œuvres, la grande pièce que je ne décrivais pas mais que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, elle était à Malmö. Mais elle n'avait pas du tout le même statut. Elle n'avait pas ce statut central. Et autour, elle n'était pas disposée comme ça. C'est-à-dire qu'elle est à chaque fois, on peut dire une chose très simple, agrémentée, modifiée, déstructurée et refaite. Et plus des choses qui sont rajoutées. Au moment du montage, c'est dur. 3 semaines, il se fait qu'à un moment on doit prendre telle pièce et soit l'accrocher à 2,80 m, soit à 3,30 m, et soit la mettre à 10 mètres de l'entrée ou à 27 mètres de l'entrée. Puis il y a cette sortie dans la ville, avec cette idée de Pascal, attention, ne pas faire d'entreprise spectaculaire, ne pas énoncer « bonjour, ceci est de l'art ». Le public, le consommateur qui vient tous les jours peut voir ou ne pas voir. C'est indifférent. L'idée, c'est qu'un jour, peut-être, il la verra, qu'un déclic se produira ou ne se produira pas. Et puis, vous avez l'aficionados d'art contemporain qui, le samedi matin, va faire tout son parcours dans des lieux très, très, très quotidiens. Je trouve que, les rencontres créent des nouvelles dynamiques, des choses qui étaient parfaitement inattendues un quart d'heure avant que la rencontre ne se fasse.
Alors, je vous remercie pour tous ces éclairages sur l'exposition à Pascal Martine Taillou. Et sans doute, est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir plus vastement sur ce musée d'art contemporain que vous dirigez depuis 1983, c'est-à-dire depuis sa création.
Que dire quand vous donnez la date, le principal risque, l'endormissement, l'assoupissement systématique d'un musée qui s'est créé dans les années 80, on est en 2011 et donc c'était 84 en fait. Hein. Mais peu importe, on est donc à 25-26 ans avec toujours la même équipe, grosso modo, et donc la vraie question elle est là, c'est quelle dynamique on a, quel ressort on a, c'est pas tellement pourquoi on est resté parce qu'il y a une biennale et que c'est un enjeu formidable aujourd'hui dans cette mondialisation réalisée. Les biennales, c'est vraiment l'irruption de ce que nous, Européens, avons tenté de cacher, Européens occidentaux, globalement, avons tenté de cacher longtemps, c'est que les autres existent. Je reviens sur votre question, pardon. Donc, le musée, c'est une drôle d'histoire. Quand moi, je suis venu, et à l'époque, je pensais rester 2 ans, donc, vous voyez, c'était un projet abstrait, comment dire abstrait, c'était une décision de nature politique, de la ville de Lyon, de développer un musée d'art contemporain. Il n'y avait pas de collection préalable d'art contemporain. Il y avait certes des collections d'art contemporain, mais pas de façon systématique, pas en tout cas représentative d'une actualité qui appartenait au musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était le même lieu, même emplacement, mais une autre scénographie, une autre muséographie, une autre direction, bien sûr. Et le projet tout de suite a été de dire je n'ai plus les moyens d'acheter les grandes pièces des années 48 américaines. Elles sont partout, elles sont trop chères. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'un début? Ça a été ma première. C'est quoi un début? La question était très simple. C'était de dire, finalement, un musée d'art contemporain travaille avec des gens vivants, et c'est à eux que le musée appartient. Donc, il faut travailler pour eux. Donc, un, les artistes. Deux, ce qui rend un artiste spécifique ou particulier. C'est-à-dire le contraire du musée. Le musée type, tel qu'il a été construit par nos amis révolutionnaires en 93 ou par le musée Napoléon, c'est de l'histoire générale. Je fais une synthèse. Le musée égale l'histoire de l'art. Vous avez tout. C'est pas la peine d'aller ailleurs. C'est le disque dur de votre ordi. Vous avez tout. Voilà. C'est l'encyclopédie, le générique. Et j'ai dit, on peut pas penser le générique. On peut pas penser la totalité. On va pas penser l'Occident. On n'a pas les moyens. On n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Et donc on a essayé de dire c'est un musée pour les artistes, Il faut donc répondre à leurs attentes, et surtout, comme il faut répondre à leurs attentes et que le musée n'est pas immense, il faut que le musée soit profondément malléable. Mais à la différence de Beaubourg, par exemple, pardon de me comparer à cette grande institution, où l'idée de la malléabilité était évidente, et puis ils ne sont pas parvenus, il s'agit, nous, tous les deux mois, de donner à l'hôte, qui est l'artiste ou l'œuvre, une table qui l'accueille vraiment. Donc le premier point était de faire des expositions qui n'avaient qu'une seule fin, composer la collection. Donc on a acheté des expositions dans leur ensemble. Puis à un moment, donc après avoir été quelque temps invité par le musée des Beaux-Arts, on a eu l'édifice dans lequel nous sommes aujourd'hui, construit par Enzo Piano. Et c'est à ce moment-là que, je dirais sur un plan budgétaire, la situation a profondément changé. Nous n'avons pas pu poursuivre l'acquisition d'expositions. J'aime beaucoup l'idée d'acquérir des expositions plutôt que des œuvres, puisque la relation à l'échelle, la relation à ce qui nous enveloppe est totalement différente. Et c'est le seul moyen de ne pas rentrer dans la fiction du musée, reconstitution abstraite de la biographie, du style, c'est toutes ces choses-là qui sont problématiques. Donc voilà, et puis c'est greffé là-dessus à partir d'une certaine époque, notamment à partir d'une expo que nous avons fait toujours à la fin des années 80, qui pour moi était un test. Est-ce que si cette expo se fait, si elle marcherait, sinon je m'en vais, en gros, pour être schématique, une exposition autour du monochrome. Je me disais, voilà, nous sommes en province, à Lyon. Fin 80, ça semble court et loin. Enfin, proche et loin. 250 monochromes sur l'histoire du monochrome. Alors aujourd'hui, c'est standard, hein, avec Malevitch, Rodchenko, etc. Et on passe par tous les grands. Voilà. Si on obtient les prêts, si on a un public, ça veut dire que le public de Lyon n'est pas plus bené qu'un autre, il n'est pas plus réfractaire, parce qu'il y avait cette image de Lyon un peu ça. C'est... Voilà, ouais, tout ce qu'on entend aussi, qu'on entendait sur Bordeaux, enfin Toulouse, enfin, Lyon était quand même plus particulier. Puis bon, cette expo, cinq lieux dans la ville, y compris d'ailleurs à Fourvière, au sous-sol de Fourvière, quasiment une mini-rétrospective de Kelly, 18 pièces de Reimann, enfin des choses solides, quoi. On ouvrait avec Malevitch, le blanc sur blanc. Il avait fallu d'ailleurs pour ça mettre sous douane, sur territoire américain, un étage du musée. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. J'ai beaucoup aimé que... Oui, absolument. J'ai beaucoup aimé parce qu'aucun... Personne parmi les visiteurs ne s'est rendu compte qu'il rentrait en territoire américain, parce qu'évidemment, on demandait...
Il passeport,
voilà. Non, mais bon, c'était des petites choses comme ça. Et à partir de là, on s'est dit, puisqu'on peut monter une expo comme ça, c'était donc 88, 9, j'oublie, c'est à partir de là, on s'est dit, puisqu'on monte une expo comme ça, on peut peut-être aller dans quelque chose de plus régulier, à vocation plus importante. Et c'est comme ça que je suis allé voir le maire en lui disant, voilà, ça a marché, on en fait une toutes les années. Et le maire de l'époque m'a dit, vous plaisantez, vous avez vu ce que ça coûte. Toutes les années impossibles, faisons ça tous les deux ans. Et comme tous les deux ans, ça s'exprime biennale, on est parti dans une expo biennale, mais qui au départ n'était pas pensée comme une biennale. Elle était pensée simplement comme une exposition de musée tous les deux ans. Donc voilà. Et ensuite, les biennales sont devenues, à partir d'une certaine époque, de véritables biennales avec des enjeux. Donc voilà, le musée d'art contemporain, c'est une collection, un espace très mobile, et puis un lien entre musée et biennale.
Alors justement, cette biennale de Lyon, la prochaine arrive très bientôt, on a son titre. Donc j'ai vu Une terrible beauté est née.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette prochaine édition ?
Alors, la prochaine édition est confiée à Victoria Norton, qui est argentine, mais basée à Buenos Aires. Elle a travaillé 7-8 ans à New York. Elle a réalisé ici ou là quelques belles expositions. Et moi, je l'ai invitée après avoir vu une biennale de Marco Sul, qui est au Brésil, la biennale expérimentale qui répond un petit peu à la biennale de São Paulo, qui est la grosse biennale référence. Le terreau, pardon d'employer ce terme, ça, j'aime bien ça, sur lequel elle a placé ses vues, était en gros Amérique du Sud. Je l'ai beaucoup poussé parce que elle disait, mais non, je viens d'Amérique du Sud. On m'a dit, non, c'est pas du nationalisme, c'est juste que c'est aussi des espaces qui sont formidables et qu'on connaît pas trop, donc puisque tu les connais, Asie, à Amérique du Sud, Afrique, donc autre continent qui a un lien à deux types de langues, anglais-français, qui sont liés, hein, et troisièmement, Europe centrale. Et j'en viens au titre. Le titre est extrait d'un poème de Yeats qui a écrit en 1916, Pâques 1916, c'est le titre, et qui écrit donc la même année que l'anecdote qu'il raconte, enfin l'anecdote, qui est en fait le soulèvement d'Irlandais qui se soulève contre l'envahisseur british. Et Yeats raconte un épisode au cours duquel les Anglais ont tiré, il y a beaucoup de morts. Et Yeats n'arrive pas à conclure, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Il ne fait que répéter dans son poème « Une terrible beauté est née ». C'est-à-dire qu'il y a à la fois du tragique, du terrible, et il y a quelque chose qui est ressorti d'une manière ou d'une autre de la beauté. Et puis, deuxièmement, le lien au soulèvement et à l'autonomie, c'est bien ce que nous vivons à travers cette formidable et positive époque de la globalisation, avec toutes les contradictions. Est-ce qu'on va être tous pareils ou est-ce qu'on va néanmoins, à travers ce global, résister ? Le titre fait référence à cela, et c'est surtout un titre qui était intéressant, c'est une forme d'oxymore. Hein. Et, bon, la beauté n'est pas tant que ça appelée aujourd'hui, même si en 2000 il y a eu un projet en France qui s'appelait La Beauté. Et terrible beauté, on est bien dans ce monde à la fois terrible, alors, sans rentrer dans l'événement, dans la conjoncture aujourd'hui, mais et sans faire de l'art la stricte chronique d'un état du monde. Bon voilà, une terrible beauté est née. Je veux dire, le titre permet d'être proprement et délibérément et définitivement sur des enjeux artistiques et en même temps pas déconnecté d'une réalité plus large qui est celle que l'on vit, qui est la réalité anthropologique, sociologique, politique, idéologique du tous les jours.
Je vous remercie beaucoup Thierry Raspail. Et donc l'exposition Pascal Martine Taillou a lieu jusqu'au 15 mai et la Biennale, ce sera à la rentrée 2011.
13 septembre, Indian Highway jusqu'à juillet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous remercions encore Thierry Raspail pour cet entretien. Passons maintenant au petit salon, puisque notre invitée nous a rejointe. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Fanny, tu pratiques la danse indienne et tu as voyagé dans ce pays qui est l'une des destinations touristiques les plus en vogue du moment. En effet, l'Inde fascine le monde occidental. L'exposition Indian Highway en témoigne. Et plus largement, le mythe de Bollywood, le succès des cours de danse indienne, l'attrait pour la spiritualité. Alors, pour commencer, quelles pourraient être les raisons de cette fascination ? Qu'est-ce qui nous attire dans cette civilisation ? Et surtout, quel est le degré de véracité de cette image de l'Inde qui plaît tant à l'Occident ?
Alors, c'est un petit peu complexe comme question. Et puis surtout, il faut faire toujours attention quand on évoque les clichés des deux côtés. Parce qu'on peut les pointer et révéler leurs ambivalences, mais il ne s'agira pas de les juger ni de victimiser l'une ou l'autre des parties dont on va parler, mais en fait, ce qui m'a semblé en lisant des textes sur le cinéma indien, sur la danse indienne, etc., et notamment sur la création contemporaine, c'est cette vision de l'Inde comme enracinée dans son passé, avec un passé qui ressurgit. Je me souviens d'une expression d'un auteur qui disait « c'est comme si on se promenait aujourd'hui à Venise et qu'il y avait toujours la même vie qu'au 18e ». Parce qu'en Inde, c'est vrai, il y a toujours des costumes et que l'Inde a gardé cette capacité à conserver ses traditions, ses valeurs, sa culture, qui est extrêmement fascinante pour l'Occident. Et donc, c'est ça que l'Occident va rechercher sans doute ici. Donc, c'est un cliché, mais en même temps, on est consentant dans ce cliché parce que c'est ce qui nous fascine. Et les Indiens eux-mêmes savent en jouer à leur profit.
Et alors, pourtant, il me semble qu'une exposition comme Indian Highway semble au contraire présenter une Inde à rebours de cette Inde traditionnelle qui nous fascine. C'est-à-dire l'image d'une Inde qui serait en rupture avec son passé, ou du moins qui serait clivée entre, d'une part, tradition et d'autre part, modernité. Et là, je pense notamment à une œuvre et plus généralement au travail de l'artiste Bharti Kher, qui réalise des sculptures ou des panneaux monumentaux à l'aide de bindi. Les bindi, donc tu le sais mieux que moi, ce sont ces petites notes de couleur si connues qui sont placées entre les sourcils et qui doivent signaler, il me semble, la situation sociale ou maritale d'un individu, d'une femme précisément.
Tu vas devoir nous renseigner.
Qui sont surtout devenus, quand même aujourd'hui, des accessoires de mode. Ouais. Là, je pense qu'on peut être d'accord.
Non, oui, parce qu'en fait, le bindi tel aujourd'hui, c'est juste un accessoire de mode qui est censé décorer. Ce qui signifie la signification sociale ou maritale ou avec une signification religieuse, c'est autre chose. C'est des points de couleur à poser qui n'ont rien à voir avec les autocollants. Pailleté que les Indiens
portent. Et c'est précisément ça que Bharti Kher voulait dénoncer, puisqu'elle utilise, elle, des bindi qui sont des autocollants jetables. Et par cette utilisation d'un accessoire qui avant avait une signification qui aujourd'hui est une afféterie esthétique, il est expliqué aux visiteurs que Bharti Kher entend réfléchir sur une Inde qui serait précisément tiraillée, clivée entre tradition d'une part et désir de modernité de l'autre. Et ce que je voulais te demander, c'est si ce schéma du clivage, ce schéma de la rupture, est opérant finalement pour penser l'Inde contemporaine.
Alors déjà, il me semble que de nouveau, cette question d'une Inde clivée entre tradition et modernité, ça serait aussi un cliché au final, parce que Quand on voit les brochures de tourisme, par exemple, on joue vraiment là-dessus, que ce soit du côté indien ou du côté occidental. Maintenant, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on parle de rupture. Quand on parle d'art contemporain indien, moi, ça ne fait pas tant sens que cela, parce que la pensée indienne telle qu'elle est construite est plus une pensée du cycle, de la continuité, qu'une pensée de la rupture. C'est-à-dire que nous, occidentaux, on a cette vision de l'art qui s'est construite dans les derniers siècles et les dernières décennies en rupture totale avec ce qui se faisait précédemment et à partir de laquelle on va construire quelque chose de nouveau. Une vision du temps comme ça, linéaire, avec des grandes failles. Et à partir de ça, on va construire quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, en Inde, on va plutôt penser en termes de cycle, avec le cycle des réincarnations. Mais c'est vrai dans tous les niveaux de la vie, dans les moindres détails, on va penser plutôt en termes de cycle et de continuité. On va repeindre les temples. Depuis des millénaires, ces temples sont là, mais on ne va pas détruire s'ils sont abîmés, on ne va pas forcément restaurer, on va juste repeindre et remettre chaque année cette couche de couleurs qui les rend si bigarrés, si attrayants sans doute, et en même temps si étranges pour l'œil occidental, parce que souvent, ce qui va plutôt être attrayant pour les touristes, ça va être ces temples justement qui ne sont plus colorés, avec la pierre brute, notamment à Tanjavur. Donc les touristes vont plutôt se presser à Tanjavur qu'à Madurai, où les temples sont recolorés chaque année. Donc, cependant, il faut faire attention, parce que ça, je le dis, mais en même temps, il y a des Indiens, mais qui font plutôt partie des classes supérieures de la société, qui ont pris à leur propre compte ces modes de pensée proprement occidentaux et qui vont détruire leurs anciennes maisons pour construire quelque chose de neuf. Et donc, dans l'art contemporain indien, on a des artistes qui ont eu sans doute une éducation plus occidentalisés ou en tout cas qui se sont appropriés ces modes de pensée et qui vont pouvoir créer un art contemporain avec une pensée de la rupture et du clivage avec la tradition.
Je suis vraiment fascinée par cette image des temples qu'on repeint, parce que ça peut être une métaphore finalement de tout ce que tu dis. Et justement, pour continuer dans cette idée de cycle, de continuité, on pourrait élargir le débat en prenant l'exemple du cinéma, qui est le lieu de cristallisation de tous ces enjeux. Donc le cas de ces films bollywoodiens qui nous semblent à tort l'image d'une Inde rompant avec ses racines peut-être être un bon exemple pour analyser comment la pensée de la rupture est inadaptée, comme tu le disais, à la civilisation indienne.
Oui, c'est vrai que la question de la perception des films Bollywood, elle cristallise vraiment tout ce qu'on a dit jusqu'ici, parce qu'on a d'un côté le fait que quand les Occidentaux reçoivent les Bollywood, ils essayent de se les approprier en ramenant ça à la tradition indienne du théâtre conté, du théâtre de marionnettes, de la danse traditionnelle, parce que ça va nous sembler à nous plus sérieux, plus artistique par rapport à ce cinéma très commercial avec un spectacle total qui pour nous est d'une altérité totale. Seulement, moi je pense que ça c'est une évidence et c'est un cliché, parce qu'au final, qu'est-ce que fait le cinéma occidental sinon reprendre des schémas qui existent depuis des millénaires également ? Enfin, je ne vais pas citer d'exemple, mais en tout cas, on a toujours la reprise de mêmes stéréotypes
qui existent. Je crois que tu avais un exemple intéressant sur Star Wars.
Oui, effectivement, j'avais pris l'exemple de Star Wars pour dire qu'au final, on retrouve exactement les mêmes stéréotypes dans Star Wars qu'on a dans la mythologie grecque. Enfin bon, c'est un peu généraliste comme pensée, mais... Et c'est exactement la même chose quand un auteur français va dire « Oui, alors dans le cinéma indien, c'est fou, on retrouve les mêmes stéréotypes que dans le Mahabharata, qui est la grande épopée de l'Inde. » Mais en fait, pour moi, ça, c'est plus une évidence qu'une vraie question. La question, effectivement, elle est plus dans la continuité. Et ce qui est absolument génial, c'est comment est-ce que l'Inde, enfin le cinéma bollywoodien, réussit à faire une synthèse absolument incroyable avec cette tradition du théâtre dansé, cette tradition des conteurs qui mêle danse et narration, et les exigences du public d'aujourd'hui qui connaît la production hollywoodienne. Donc ils font un mix absolument génial entre tout ça, et donc ça c'est notamment visible par la musique. Aujourd'hui, quand on écoute la musique indienne, on aurait tendance à se dire « voilà, c'est de la... ils mixent des rythmes techno, enfin... » Et ça a plus grand-chose à voir avec la musique traditionnelle.
En fait, pas du tout. Rupture, alors qu'en
voilà.
Fait, non.
Voilà, en fait, non, parce que dans un film, il peut y avoir une musique qui va être extrêmement moderne, avec des rythmes très techno, des gros beats qui vont faire penser au rap, enfin, vraiment quelque chose de très, très, très moderne. Mais les paroles vont pouvoir être des paroles qui vont faire référence à des images de la poésie indo-persane. Et puis, on va avoir une chanson d'amour extrêmement romantique qui va reprendre les schémas des Razals, qui sont ces poèmes d'amour qui existent depuis le XVe siècle dans la tradition indo-persane. Et notamment, donc, les paroliers du cinéma Bollywood sont en fait des poètes. Et aujourd'hui, l'expression poétique et l'expression musicale de la scène indienne se fait par ces films. Alors, j'avais également un autre exemple.
Ah oui.
Entre parenthèses, donc c'est l'exemple de la moustache.
Ah. Grave
la moustache,
question.
Qui
la moustache.
Est donc un attribut masculin assez valorisé depuis des millénaires, puisque les statues indiennes et notamment certains bouddhas, même gréco-bouddhiques, présentent des bouddhas moustachus.
Quelle culture étrange.
Et donc le cinéma indien à ses débuts, le héros était moustachu, et jusqu'à très récemment, on avait retrouvé dans le cinéma tamoul notamment des héros moustachus, et un héros beau ne pouvait être que moustachu. Mais aujourd'hui, sous l'influence notamment de la culture occidentale, où c'est un peu une aberration qu'un héros moustachu, si ce n'est pas un film du 17e, on a une évolution de la moustache. Alors, ça s'est fait assez radicalement ces derniers temps dans le cinéma hindi, donc Bollywood, puisque les héros sont rasés de frais et présentent donc ils n'ont plus de moustache. De temps en temps, ils ont un peu de barbe parce qu'ils ne se sont pas rasés depuis quelques jours. Mais en tout cas, il n'y a pas de moustache. Et dans le cinéma tamoul, ça s'est fait de manière beaucoup plus diffuse et continue, puisqu'aujourd'hui, on a une barbe extrêmement stylisée qui rappelle encore la moustache. Et donc, cette évolution, vous voyez, c'est pas fait en rupture. On n'est pas passé tout d'un coup d'un héros moustachu à un héros galbre. On a eu l'évolution par la barbe et petit à petit, on est arrivé à un héros galbre. Donc bon, c'était un exemple un peu plus... fun pour parler de ça.
J'attends avec impatience le livre La moustache et le cinéma indien par Fanny Biard.
Sur sujet de thèse, je pense. Mais donc, pour revenir à la musique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, c'est vraiment là où se cristallise la notion de continuité, parce qu'on a bien une continuité avec cette tradition qui mêle musique et danse et narration. Donc pour raconter une histoire, on a nécessairement besoin de passer par un biais musical et un biais donc de danse. D'ailleurs, Lata Manekshar, donc qui est la grande chanteuse du cinéma indien des années 80-90, disait « Le cinéma indien, c'est d'abord et avant tout un prétexte pour faire de la musique. » Et moi, je dirais, parce que je suis danseuse, que c'est également un prétexte pour faire de la danse et que les chorégraphies et les musiques qui interviennent dans les Bollywood vont nous sembler, à nous occidentaux, complètement en rupture avec le reste de l'histoire. On ne comprend pas forcément d'où ça sort tout d'un coup. Alors qu'en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant et c'est vraiment ça qui va faire vibrer le public.
Alors, tu me fournis à ton tour un très beau prétexte, puisque tu l'as dit, tu es danseuse et nous parlons Bollywood, nous parlons danse, parlons donc de toi. Tu pratiques depuis de longues années le Bharatanatyam et on a pu te voir danser d'ailleurs hier soir à l'occasion de la soirée du cinéma indien. Peux-tu nous en dire plus sur cette danse et surtout sur le rapport que toi, tu entretiens avec elle ?
Alors, je vais peut-être commencer par expliquer un peu.
Oui, ce serait bien. Je pense que c'est une bonne idée.
Donc, le Bharatanatyam est une danse classique du sud de l'Inde. C'est une danse sacrée. Donc, la tradition de cette danse remonte à des millénaires avant Jésus-Christ, de même que les temples. Mais bon, il y a eu... Enfin, bien sûr, encore une fois, là, c'est pas aussi simple que ça. Il y a eu une rupture avec la colonisation. Donc, le Bharatanatyam qu'on pratique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qu'on pratiquait autrefois. Mais il y a tout de même une continuité dans cette danse. Et ça, c'est reflété aujourd'hui par les deux grandes tendances qu'il y a en France, donc les deux grandes postures que les professeurs adoptent par rapport à la danse indienne, qui sont le reflet donc, de ces clichés dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a d'un côté, avec cet attrait nouveau pour les Bollywood, le spectacle Bharati, qui a eu un très grand succès dans les théâtres ces dernières années, on a des professeurs qui vont choisir de cibler sur l'exotisme, d'en rajouter là-dessus, de dire « Oh, venez danser comme une princesse indienne », etc. sans s'inquiéter vraiment de la qualité et qui vont plus ou moins arnaquer en racontant des histoires un peu vaseuses sur justement une danse millénaire, une danse magnifique, qui raconte des histoires, etc. Alors qu'en fait, elles sont complètement dans le...
L'arnaque.
Voilà, c'est ça, c'est un exotisme débridé qu'on ramène au premier plan. Mais ça, c'est pas uniquement les Françaises qui sont parties en Inde 2 ans et qui reviennent en exploitant ça. Il y a aussi des Indiens qui jouent à fond la carte de l'exotisme et qui en sont tout à fait satisfaits parce que ça fait vendre et parce que ça leur permet de s'épanouir. Donc c'est pas forcément, encore une fois, un cliché dont ils sont les victimes. Et puis, à côté, on va avoir des professeurs qui vont vouloir être plus traditionnels que la tradition. Alors c'est ça, encore ça peut un autre être, risque. Voilà, c'est encore un autre risque. Ça peut être des professeurs français qui vont vouloir être beaucoup plus rigides et qui vont avoir des espèces de rigidité totale et de technicité maximale sur la danse indienne. Mais également des Indiens qui vont dire « Ah non, non, mais les Français ne peuvent pas pratiquer la danse indienne, c'est une danse pure, il ne faut pas la... » Enfin, donc c'est vraiment, ça se transmet de mère en fille, etc. Donc ça, c'est encore une fois une vision extrêmement clivée et trop simpliste. Et moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir deux enseignantes extrêmement en marge, finalement, de ces tendances, parce que j'ai commencé avec une Indienne donc, qui était danseuse, qui n'était pas professeure, donc qui m'a donné un contact privilégié avec la danse dans... Enfin, en tout cas, elle me l'a donné, on va dire, de manière un peu fleur bleue. C'était vraiment par le cœur, quoi, qu'elle me l'a transmise, et pas du tout dans une dimension technique, dans une dimension rationnelle et dans une dimension très érudite, telle que les Françaises la pratiquent. Et puis ensuite, quand j'ai voulu quand même m'intéresser de manière plus approfondie dans cette danse, parce que je sentais qu'il n'y avait pas uniquement quelque chose donc, de beau, mais qu'il y avait aussi quelque chose de très symbolique dans tout ça, j'ai rencontré un professeur à Paris, donc Kalpana, et elle m'a vraiment transmis l'intelligence du cœur, et pas uniquement l'intuition du mouvement. Elle a vraiment l'intelligence, une exigence et une précision technique associées tout de même à un respect et à un amour pour cette danse qui font que c'est pas dénué de toute émotion. Mais tandis que mon premier professeur m'a vraiment appris à influer une sensualité, une grâce et une rondeur dans les mouvements, elle m'a plutôt appris à développer quelque chose de très exigeant et de très carré pour la technique. Et elle m'a cadré, disons, dans cette intelligence et cette émotion. Et pour moi, en fait, cet amour et ce respect, c'est le moyen d'accéder à cette spiritualité à laquelle on voudrait accéder directement en étant dans le cliché, alors qu'en fait, cette spiritualité, elle est présente dans la danse. Il n'y a pas besoin de faire un rituel initiatique ou que sais-je, de faire brûler de l'encens sur scène. Non, elle y est dans la beauté qui est capable de toucher tous les publics et qui est intrinsèque à cette danse.
Et là, le silence se fait. Je crois qu'on est... On est subjugués, nous aussi. Enfin bon, merci beaucoup, Fanny. Merci d'être venue.
Merci à vous de m'avoir accueillie.
Bonne C'était continuation. C'était un plaisir. Voilà, on espère qu'on pourra te revoir danser.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, bonne continuation, oui, pour la danse et pour le reste. Et donc, vous, chers auditeurs, je le rappelle encore une fois, les expositions du Musée d'Art Contemporain se tiennent jusqu'au 15 mai pour Pascal Martine Taillou et jusqu'au 31 juillet pour Indian Highway, donc pas d'excuses.
Et surtout, oui, courez-y, et je me permets ici de marquer sans doute ma préférence.
Voilà,
pour
le mot
l'exposition
de l'exposition,
Pascal Martine Taillou, vraiment, ne la manquez sous aucun prétexte. Quant aux activités de Transistor, n'hésitez pas à écouter les entretiens réalisés par toute l'équipe à l'occasion de la journée Altéridée du 31 mars et avec de très nombreuses personnalités du monde journalistique, entre autres.
On ne cite pas de nom.
Non, c'est un teasing. Et puis, parmi les nouvelles émissions en ligne, je crois que Antoine et Fabien de LMNSP vont vous proposer notamment d'analyser une des questions brûlantes, si je puis dire, du moment, le nucléaire.
Quel jeu de mots final. À bientôt.
À très bientôt.